la criminalité, le meurtre, le cauchemar. Nous connaissons beaucoup d'affaires qui ont marqué nos mémoires par leur cruauté, par l'horreur des actes commis. Revenons sur ces affaires qui ont marqué la Belgique. Ce podcast va parler de sujets prenants. Âme sensible, je suis au regret de vous déconseiller de m'écouter. Aujourd'hui, nous nous attaquons à une affaire plutôt récente qui s'est déroulée dans les années 2000. Un tueur en série belge, encore une fois, avec une vie plutôt banale en apparence. Repensez à votre professeur de technologie, un homme sans histoire qui vous donnait cours lorsque vous étiez à l'école. Bienvenue dans l'affaire de Ronald Janssen. Il naît le 6 février 1971 à Borsum, en région flamande de la province de Limbourg. C'est une belle petite campagne où tout est vert, il y a plusieurs étendues d'eau et le village est également surplombé d'une rivière, la Meuse. Vous pouvez donc bien imaginer le calme et la douceur de la vie dans ce lieu. Il est le troisième enfant d'une fratrie de quatre. Il est fils d'un père mineur et d'une mère femme de ménage. Ronald est un enfant plutôt gentil et discret. Il est victime de moqueries à l'école à cause de son zézément, qu'on appelle aussi le zozotement. Vous savez, c'est cette manière de parler et de confondre les S, les CHE, les Z, tout ça. Alors pour répondre à ces railleries, l'enfant se venge très vite en frappant avec une batte de baseball ses camarades. Cela lui vaudra de changer d'école et de se faire des nouveaux amis bien moins mauvais que les précédents. Au-delà de ses moqueries, il est aussi terrorisé par son père. Son père est un homme violent et surtout dépressif et suicidaire. L'ambiance n'est pas au top lorsque le jeune garçon rentre à la maison. Son père frappe et terrorise toute la famille, il est même décrit comme tyrannique. Il va beaucoup embêter son fils pour s'amuser, ce qui engendre une énorme frustration chez le garçon. Cette peur de son père va lui faire développer des insomnies dès son enfance et les gardera toute sa vie. Il grandit dans ce foyer mouvementé et décide un jour de défendre la famille. Il va tenter de tuer son père. À cette époque, l'homme est diabétique, alors Ronald Janssen décide de lui injecter un liquide à la place de son insuline. La tactique ne fonctionne pas, mais c'est la première tentative de meurtre du futur tueur. Les enfants de la famille Janssen grandissent, et la mère de famille, qui a toujours été très proche de ses enfants et notamment de Ronald, décide de divorcer. Elle ne pouvait plus gérer les abus moraux et les violences que le père Janssen faisait subir à toute la famille. Heureusement, la femme obtient la garde des enfants qui seront tous traumatisés par la violence qui régnait dans leur foyer. Tous ont grandi en faisant des cauchemars à répétition, en repensant à ce qu'il se passait chez eux. C'était vraiment une enfance horrible. On n'a pas les âges précis, mais évidemment tout ça, ça se passe sur des années, c'est assez long, et c'est dans cet environnement que Ronald Janssen se construit. Et en parlant de construction, lorsqu'il arrive à l'adolescence, il commence à détester secrètement les femmes. Il a des pulsions violentes qui montent en lui. Malgré ce parcours de vie qui commence mal, il excelle à l'école. Il fréquente les universités de Hasselt et de Louvain pour obtenir en 1993, à l'âge de 22 ans, son diplôme d'ingénieur industriel. Pour une personne qui démarrait la vie difficilement, il réussit à bâtir une belle carrière. Il rencontre Nathalie, sa future femme, pendant ses études. Après l'obtention de son diplôme avec les félicitations du jury, il emménage avec Nathalie et continue sa petite vie tranquille. Ils vivent à Genk, là où sa femme a trouvé du travail, il n'a pas de mal à en trouver lui non plus, et il va occuper le poste de responsable technique dans une entreprise de la ville. Pour vous poser le décor, Genk est une belle petite ville avec un côté industriel qui se trouve à 1h10 de Bruxelles. On a de beaux paysages, de la campagne, des champs, en bref, il y a tout ce qu'il faut pour mener une vie tranquille. La vie continue, Ronald devient professeur de mécanique et d'informatique en 1998. Pendant ce temps, il fonde une famille, il a deux filles, la première née en 1998 et la seconde en 2001. L'homme semble être un bon père. En tout cas, il est un très bon professeur. Ses élèves disent de lui qu'il est à l'écoute et toujours là pour aider ses étudiants. D'ailleurs, la petite famille déménage durant l'été 2000 dans la belle campagne de Lauksbergen. C'est là qu'il évolue encore dans sa vie professionnelle et qu'il devient enseignant d'informatique, d'économie, de technologie et de mécanique appliquée. Depuis le début de sa vie, on peut constater qu'il n'arrête pas d'avancer dans sa vie pro, alors on peut se dire que c'est un faux départ pour une vie finalement réussie. Malheureusement, le chaos reprend rapidement le dessus. C'est en 2006 que Nathalie, sa femme, obtient le divorce. Pas un cas classique, puisqu'elle demande le divorce à cause notamment d'une agression sexuelle de la part de son propre mari. Il lui faisait ingérer des sédatifs pour pouvoir abuser d'elle. Elle dépose plainte contre lui, leur mariage explose et Ronald Janssen met la faute sur ses problèmes d'insomnie. Lors du procès, il affirme qu'il n'a pas abusé de sa femme et que c'était une relation consentie. L'affaire est classée sans suite. Après ça, Ronald vit toujours à Lauxbergen, seul, et sa vie est en déclin total. Ses voisins l'aperçoivent parfois se baladant tard la nuit, lors de ses insomnies, déambulant dans les rues sombres. Parlons maintenant de la première victime, Annick van Witsel. Annick a 18 ans à l'époque, c'est une jeune femme pleine de vie. Pour parler de son physique, elle est plutôt châtain, brune, coupée au carré, la peau pâle, les yeux bleus et un magnifique sourire. Elle avait l'habitude de se déplacer en vélo et un soir d'avril, dans la nuit du 27 au 28 avril 2007 pour être précise, elle décide de sortir. Elle se rend à une soirée en vélo et forcément, elle repart aussi en vélo. Ses amis sont repartis en même temps qu'elle vers 3h du matin, mais leurs chemins se sont séparés à l'approche de leur domicile respectif. Un tel part à droite, l'autre part à gauche et Annick continue la route. C'est la dernière fois que la jeune femme a été vue. Le lendemain matin, ses parents se sont réveillés sans nouvelles de leur fille. Elle n'est pas rentrée de la nuit et ne répond pas au téléphone. La jeune fille n'a pas de petite amie, donc elle n'a pas vraiment d'autre endroit pour dormir. Les parents d'Annick se sont directement inquiétés. Ils ont contacté les amis qui l'accompagnaient la veille et se sont rendus compte que personne n'avait vu la jeune femme depuis des heures. Rapidement, l'alerte est donnée. La police commence les recherches dans la journée du 28 avril. Beaucoup de volontaires aident les enquêteurs durant les recherches. Plusieurs battues sont effectuées. Et le 3 mai 2007, quelques jours après le début des recherches, un groupe de personnes se baladait dans leur bateau de loisirs sur le canal Albert, près de la ville de Lumen, non loin de Lauxbergen. Une balade sympa, jusqu'au moment où les plaisanciers ont aperçu un sac poubelle flottant. En s'approchant, ils se sont rendus compte qu'un corps humain se trouvait à l'intérieur. Les autorités sont immédiatement prévenues. Lors de la sortie du corps de l'eau, les policiers se rendent compte que le sac poubelle était lesté de presque 15 kg de pierre pour maintenir le corps au fond de l'eau. La thèse de l'accident est très vite écartée et les proches d'Annick sont prévenus de la macabre découverte dès que le corps a été identifié. L'horreur se poursuit après l'autopsie qui révèle une mort extrêmement brutale. La jeune femme a été violée, violemment battue, puis tuée par un fort coup à la tête. La famille est évidemment anéantie. Elle veut des réponses et elle veut un coupable. Malheureusement, l'enquête piétine rapidement. Aucun suspect, aucun indice et une seule découverte un an plus tard. Le vélo de la victime a été retrouvé dans un bas-côté en direction de Louvain. Il était repeint et aucune empreinte n'était exploitable. On arrive rapidement à la date du 3 janvier 2010. Vers 2h du matin, les pompiers et la police sont appelés pour un incendie près d'une autoroute. Ils se rendent rapidement sur les lieux et en arrivant, ils aperçoivent une voiture en feu. L'incendie est vite maîtrisé, c'est assez courant un feu de voiture, il y en a régulièrement partout. Mais ce qui va horrifier les autorités, c'est la découverte de deux corps à l'intérieur de ce véhicule. Et c'est loin d'être un accident, puisque le premier corps est celui d'une femme sur la banquette arrière. Le second, c'est le corps d'un homme dans le coffre. L'autopsie révèle les identités des deux victimes, Shanna Appeltans, 18 ans, et Kevin Paulus, 22 ans. Ils étaient un jeune couple qui vivait juste à côté du logement de Ronald Janssen. Étrange coïncidence. Shanna était une belle brune aux cheveux et aux yeux bruns. Kevin était lui aussi brun aux yeux marrons. Ils formaient un couple heureux et très amoureux. Et c'est ce que témoignent leurs proches. L'autopsie révèle également un assassinat, car les deux jeunes gens sont morts criblés de balles. Les proches, mais aussi les habitants de leur ville ont été bouleversés d'apprendre cette nouvelle. L'enquête pour meurtre a commencé et directement les policiers se sont intéressés à l'entourage du couple et grâce à ça, ils ont pu retracer la ligne du temps. Les deux jeunes se sont d'abord rendus dans un café pour profiter de la soirée avec leurs amis, puis ils sont rentrés chez eux alors qu'il faisait nuit et là, quelques heures plus tard, ils sont morts dans leur voiture en feu. Ils s'intéressent alors à leur voisin, le fameux Ronald Janssen, car d'après l'entourage proche des victimes, cet homme et Shanna n'entretenaient pas de bons liens de voisinage. Ils ne s'entendaient même pas du tout, pour être honnête. L'homme est alors convoqué le mardi 4 janvier 2010 pour être interrogé. Et d'abord, il nie en bloc. Il était chez lui, tranquillement installé devant sa télé, comme tous les soirs. Mais je vous rappelle qu'il vit seul depuis que sa femme l'a quitté. Donc personne ne pouvait témoigner de son alibi. En parallèle, son domicile est fouillé. Et les choses sérieuses commencent quand une arme est retrouvée. L'homme était déjà nerveux lors de l'interrogatoire, ce qui le rendait très étrange pour quelqu'un qui avait un alibi. Puis lorsque sa maison est fouillée et qu'une arme et des munitions sont trouvées, le lien est vite fait entre les balles retrouvées sur la scène de crime et celles retrouvées chez Janssen, tout simplement. D'autres objets sont également trouvés sur place, comme des effets personnels de Shanna, un ordinateur qui contenait des recherches assez bizarres qui confirmaient son obsession pour le crime, et aussi du ruban adhésif, similaire à celui trouvé sur la scène de crime des meurtres de Kevin et de Shanna. Face à ces preuves, Ronald Janssen s'écroule. Il craque. Et il commence son récit macabre dès le soir du 4 janvier 2010, sous la pression des policiers. Voici son témoignage retranscrit dans le média belge La Dernière Heure.
Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. J'étais dehors en train de regarder la nature quand les voisins sont rentrés avec l'Opel Corsa. Me voyant, Kevin, qui conduisait, a manœuvré pour me renverser et m'a traité de porc. De colère, j'ai couru à la maison. Je voulais les tuer. Chez moi, j'ai pris une arme et une bouteille vide de White Spirit que j'ai remplie avec de l'essence pour la tondeuse. C'est Shanna qui a ouvert. Avec l'arme, je les ai forcés à entrer dans la Corsa. J'ai obligé Kevin à prendre le volant et Shanna à s'asseoir à l'arrière, où elle était coincée. Je me suis assis à côté de Kevin. On a démarré, on a roulé. J'ai dit à Kevin d'arrêter dans un chemin. J'ai tout de suite tiré deux fois dans sa tête. J'ai poussé le corps pour pouvoir me mettre à sa place au volant. J'ai roulé jusqu'à un verger. J'ai traîné le corps jusque derrière la voiture. Je me suis remis au volant et j'ai roulé en marche arrière. On a roulé sur le corps. Shanna ne disait rien, mais elle a supplié de la laisser partir.
Après cela, il avoue avoir violé Shanna, puis de l'avoir abattue froidement. Vous connaissez la suite. Il met feu à la voiture. Il rentre tranquillement chez lui. Il brûle ses affaires pleines de sang dans son poêle à bois. Et c'est tout. Peu après ses aveux, il décide de tout livrer. Il parle de 3 agressions sexuelles qu'il aurait commises dans une résidence universitaire lorsqu'il étudiait à Louvain. Et après coup, les enquêteurs le soupçonneront d'une 20aine d'agressions sexuelles similaires dans les résidences universitaires aux alentours et aux périodes où il étudiait. Et puis finalement, il décide de parler d'Annick Van Huitzel.
Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. J'étais en train de trembler dans mon lit. J'ai fini par me lever, je suis sorti, j'ai pris la camionnette et j'ai roulé vers Dieste. À un moment, j'ai croisé une fille à vélo. Je ne l'avais jamais vue. Je ne la connaissais pas. J'ai accéléré pour arriver à un endroit où je pourrais la coincer. Je l'ai attendue. Elle arrivait sur son vélo, je lui ai parlé.
D'après ce que dit Ronald Janssen, il ne se souvient pas de l'avoir enlevée. Il se souvient juste de l'avoir vue dans un buisson, ligotée avec de l'adhésif sur la bouche. Il explique ça comme des flashbacks. Et à ce moment-là, il décide de mettre la jeune fille et son vélo dans sa camionnette pour se rendre chez lui. En arrivant à son domicile, il met Annick dans son lit. Et il affirme qu'ils n'ont fait que parler pendant un long moment, car il voulait juste de l'affection. Puis, le téléphone de la jeune fille s'est mis à sonner. Sa mère cherchait à la joindre. Tout de suite, Janssen retire la batterie. Mais c'était déjà trop tard, le téléphone avait borné. Et ça, c'est un indice que les enquêteurs avaient évidemment pris en compte lors de l'enquête. Après ça, les voisins Shanna et Kevin ont commencé à se disputer, d'après Ronald. Il dit aux enquêteurs qu'ils hurlaient leurs prénoms et que forcément, Annick les avait entendus. Au début, ils n'avaient pas l'intention de la tuer, mais comme elle savait qui était son agresseur, comme elle avait entendu les prénoms des voisins, il ne pouvait plus la laisser en vie. Il lui fait donc croire qu'il allait la relâcher dans les Ardennes, mais au moment où elle pensait enfin revoir le jour, Ronald Janssen lui met un tissu sur la bouche, lui frappe la tête avec un marteau, puis plonge sa tête dans une baignoire pour être sûr qu'elle ne survive pas. Vous connaissez la suite, il dépose son corps emballé dans un sac poubelle dans le canal où elle sera retrouvée la semaine suivante. Plusieurs interrogatoires auront lieu par la suite où Ronald Janssen va se contredire sans arrêt. Il va affirmer qu'il n'a jamais violé Shanna, mais aussi qu'il n'a pas kidnappé Annick et qu'elle serait venue d'elle-même chez lui. Il va aussi avouer un 4e meurtre en disant qu'il a transporté un jour un corps dans sa camionnette durant l'été 2007. Mais peu après, il revient sur son témoignage, ce qui sème le doute chez les enquêteurs. La condamnation. Son procès débute le 20 septembre 2011 devant la cour d'assises du Limbourg à Tongres. Ronald Janssen a fait interdire les photos, les dessins et les médias. Les familles étaient présentes et lorsque les faits sont énoncés, le père d'Annick quitte la salle pris par la cruauté des précisions sur le meurtre de sa fille. Sa mère s'évanouit quelques minutes plus tard. L'atmosphère est lourde. La défense plaide en faveur des problèmes d'enfance de Ronald. Ils disent qu'il a agi sous la colère. Janssen pleure face à un public stoïque. Mais les psychiatres qui l'ont évalué ont clairement affirmé qu'il est un sadique psychopathe qui a réussi à très bien dissimuler son caractère déviant pendant des années grâce à sa gentillesse et à son masque de professeur sympa. Après 3 terribles heures de délibération, il est jugé coupable et condamné à la prison à perpétuité. Il va également avoir droit à un second procès pour les viols en série qu'il a commis, mais comme il est déjà condamné à perpétuité, il n'a pas de condamnation supplémentaire. C'est un procès qui reconnaît les faits pour soutenir les victimes. Plusieurs enquêtes ont aussi émergé à son sujet à propos de meurtres non élucidés qui auraient pu coïncider avec les dates, mais rien n'a été trouvé et il n'a jamais réavoué un autre meurtre. Les familles maintenant liées ne se remettront jamais de ce drame qui aurait pu être évité si la plainte de sa femme avait été prise au sérieux. Madame Van Huitzel déclarera aux médias « Maintenant, nous allons vivre avec la réponse que nous avons reçue et celle encore à venir. » Des milliers de personnes s'étaient rendues aux funérailles des 3 victimes. Des milliers de personnes se sont également rendues aux marches silencieuses en mémoire à Annick, puis celle en mémoire à Shanna et Kevin qui reposent désormais ensemble. C'était la terrible histoire du psychopathe déguisé en gentil professeur, Ronald Janssen, pour le petit podcast des grandes horreurs, créé et réalisé par Emma Villot. J'espère avoir le temps de vous réaliser un nouvel épisode dans un mois. Si vous avez loupé un morceau de ce podcast, n'hésitez pas à le consulter sur rqc.be ainsi que sur Spotify. À bientôt !